Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 3, épisode 3, Une Heure en Série. Un 55 minutes chrono pour débattre de l'actualité des séries et vous recommander le meilleur de la série. Grâce à la vie affûtée, parfois mordant, mais jamais de mauvaise foi. Non, c'est vraiment pas le genre de l'ambiance. De nos chroniqueuses et de notre chroniqueur. Ce soir, nous parlerons saillie comique et amour transgénérationnel avec Jeanne et Gollery sur OCS. Enfant disparu et polar opaque avec L'Absente sur France 2. Et enfin, femme musulmane et punk attitude dans We Are Lady Parts sur Brut X.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Avec nous ce soir, les très punk, les très no future de la critique de la série télé. Bien sûr, j'ai nommé Ariane Allard. Cosette est positive. Bonsoir Ariane.
Bonsoir Xavier. Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. Bonsoir tout le monde.
Nous retrouvons également Marianne Lévy qui a inventé la punk attitude. Ça, vous la verriez comme ça. Voilà, c'est elle.
Ouais,
tout va bien, Marianne ?
Tout va bien, je suis super contente d'être de retour parmi vous ce soir avec tous les amis.
Et évidemment, l'indispensable Benoît Lagan, le 5-7 de Mathilde Muneau sur l'antenne de France Inter et Télématin deux fois par semaine, le jeudi et le samedi, je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, et très punk un peu aussi, mais mode Yves Duteil, vous voyez.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Alors, juste avant de commencer nos débats, nous allons évoquer la 73e cérémonie des Emmy Awards qui se tiendra demain soir à Los Angeles et sera donc retransmise en direct sur Série Club dans la même nuit. Je vais vous demander vos pronostics si vous voulez bien jouer un tout petit peu. Alors c'est la série que vous aimeriez voir triompher demain. On commence par la meilleure série télévisée dramatique, je vais les citer toutes. La chronique des Bridgerton, Lovecraft Country, Pose, The Boys, The Crown, La Servante Écarlate, The Mandalorian, ou cette série qui nous a fait tant pleurer et qui nous a tant plu, This Is Us. Alors, tiens, Benoît, commençons par vous.
Oh ben moi, je voterai et j'aimerais que ce soit This Is Us. Pour quelle raison ? Parce que cette saison 5 réussit quand même à inclure le Covid sans en faire quelque chose de trop gênant, juste en miroir, voilà, par rapport à nos vies. Et puis, toute l'affaire George Floyd est extrêmement bien abordée dans cette saison. Et puis, c'est la seule série de la liste qui vient d'un network, ce qui était très rare dans les émises. Pendant longtemps, il n'y avait quand même que des chaînes de network. Bon voilà, This Is Us pour moi.
Donc juste avant l'émission, je vous avais demandé de faire court.
Oh oui,
vous n'avez strictement rien écouté comme d'habitude. Marianne.
Moi, je vais voter pour mon non-guilty pleasure. Donc mon plaisir non coupable de la saison de Crown. Magnifiquement filmée, ultra divertissante, voilà. Je vais faire court.
Avec une Gillian Anderson en Margaret Thatcher,
absolument extraordinaire.
Vous êtes très obéissante en ce début d'émission. Je redoute le pire pour la suite. Ariane.
Bah écoutez, je suis un petit peu embêtée parce que moi, c'est The Crown aussi. C'est un choix presque facile. Moi, je pense que ça reste une des meilleures séries politiques qui ait jamais été écrite. Et puis là, on se rapproche de plus en plus de notre époque. Donc la tension, je trouve, est de plus en plus intéressante.
Et moi, je voterai pour Pose, qui est une série qui m'arrache des larmes et qui, je continue de penser, est un excellent témoignage de ces années sida, de ces années trans, de ces années effectivement difficiles pour la communauté LGBT. On a le temps pour la meilleure série limitée, I May Destroy You, Mary of Easttown, Le Jeu de la Dame, The Underground Railroad et Vandavision. Dans mon souvenir, ce sont cinq séries que nous avons adorées dans cette émission. Ariane, à vous.
Mais c'est vrai, c'est un choix très difficile, hein, j'avoue. Alors moi, je prends la première, I May Destroy You, parce que ça m'a permis de rencontrer, je dirais presque, une autrice, une actrice, une scénariste, une showrunneuse que je trouve absolument extraordinaire. Elle s'appelle Michaela Coel. Elle était connue pour être une fille plutôt rigolote. En fait, c'est surtout une actrice brillantissime et une autrice brillantissime. Voilà.
Absolument. Une très belle série. Et là, si on peut dire cela, sur le viol et sur le consentement, très contemporaine, mais effectivement, avec une forme d'humour particulière.
Incroyable.
Absolument formidablement écrite et interprétée. Marianne.
Bon, c'est un choix impossible. Donc, en fait, ça va être le choix du cœur. Non, quand même, voilà. Pour moi, dans cette liste, il y a une série qui est au-delà de toutes les séries. Enfin, ça fait 15 ans que je fais ce métier.
On y va.
15 ans que je fais ce métier et j'ai jamais vu ce que j'ai vu dans The Underground Railroad. Pour moi, c'est la série des séries. Elle m'a bouleversée. C'est une œuvre qui questionne. C'est une œuvre qui secoue. C'est une œuvre qui parle de notre humanité dans toutes ses dimensions, les plus lumineuses et les plus noires. Donc voilà, The Underground Railroad.
Les pires heures de la ségrégation et du racisme aux États-Unis, effectivement. Benoît,
je suis d'accord sur cette série, mais du coup, la deuxième que moi je mettrais en haut, c'est Vandavision, parce que c'est sur la télévision et c'est à la fois très poétique et doux et beau. Voilà.
C'était pour moi la série la plus improbable sur le papier et elle est devenue une série que j'ai adorée, c'est Le Jeu de la Dame, que je trouve formidablement écrite, interprétée, mise en scène. Donc voilà, mais je suis ravi de ce choix éclectique.
Bah oui.
et évidemment critique. On commence notre premier débat de la soirée avec Jeune Égolerie, une série française en 8 épisodes, disponible sur OCS, présentée cette année en compétition à Sériemania. Jeune Égolerie est reparti auréolé du Grand Prix de la compétition française. C'est un peu une surprise, Benoît, hein, quand même.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait plutôt beaucoup de propositions et que donc, que ce soit ce format de 26 minutes qui emporte la meilleure série française, ça a étonné, mais à la fois, ça collait à l'esprit du festival qui mettait en avant le stand-up. Donc voilà, est-ce que c'est lié?
Je sais Petit pas. Résumé, prune, 25 ans, adolescente immature dans un très joli corps d'adulte, est promise à une belle carrière dans le stand-up. Enfin, c'est surtout elle qui le croit, car si l'on en juge aux réactions indifférentes, voire parfois gênées qu'elle reçoit et endure lorsqu'elle monte sur la petite scène du café-théâtre un peu ringard où elle se produit, ben c'est loin d'être gagné. Côté amour, même Louise, jusqu'au jour où elle croit ce que le dossier de presse appelle un, alors je les cite, « vieux dépité de 47 ans ». Je me garderai de tout commentaire. C'est l'amour, sauf que le cadre approche de la date de péremption, a oublié de prévenir Prune qu'il était l'heureux papa d'une petite Alma. Alors Alma, c'est une fillette de 6 ans, sorte de croisement entre Nelly Olson pour le côté agaçant et Einstein pour le QI, Mini Merkel, comme il est dit dans la série, spécialiste entre autres de Napoléon. Voilà, vous imaginez un peu ce que ça donnera à l'âge adulte. Entre Prune et Alma, c'est comment dire, une détestation immédiate, réciproque, mais qui pourrait s'avérer salvatrice pour Prune qui a choisi ce conflit générationnel comme sujet de son tout nouveau spectacle. Bingo, enfants et méchanceté font décidément très bon ménage.
On m'avait tout fait, mais l'enfant caché, jamais.
Je suis désolé, hein, je voulais pas que tu la prennes comme ça, mais je peux pas lui présenter n'importe qui.
Est-ce que tu te souviens du gars à qui j'ai roulé une pelle grâce à toi au club en juillet? Le mec un peu vieux et dépité.
Il s'appelle Francis, il a 47 ans.
47 ans, il perd ses cheveux déjà.
Je bande.
S'il te plaît, tu laisses Alma en dehors de tout ça. Hier, à l'école, elle a soulevé sa robe pour faire comme la copine de papa.
Non mais Prune sera une super belle-mère.
Franchement, qu'elle s'étonne pas demain si en se réveillant, elle a plus de sourcils, quoi.
Non, Alma, là, t'as fait une grosse bêtise. Demande pardon à Prune.
Elle l'a fait exprès.
C'est un monstre, cette gosse.
Vous êtes pareil, en fait. Vous avez le même âge mental.
T'as vu comme c'est pratique.
Cours ! Une gosse !
Adulte, tu sais ce que c'est ? Donc pas quelqu'un qui fait voler une gosse de 6 ans, qui trouve ça si drôle.
J'ai déjà le titre de mon premier spectacle.
Shining.
Belle-mère.
Surprise ! Ah, d'accord.
Jeune Égolerie, une série signée Victor Saint-Macary, Léa Domenac et surtout Agnès Hurstel, pétillante humoriste belge qui interprète le rôle tout en auto-ironie de Prune. À ses côtés, Jonathan Lambert, impeccable, ainsi que Marie Papillon. La pétillante réalisation de la série est assurée par Fanny Sidney, que l'on a vue également comme comédienne dans la série 10%, sans oublier une BO débordante de Pomme Frenchie avec, entre autres, du Lio. Et Lio, c'est quand même toujours un gage de bon goût. Benoît, oui, moi, vous êtes loin d'être un vieux décrépit de 47 ans.
Oui, mais de 46.
Voilà,
mais pas décrépit.
Quelques mois après, on va dire.
Non, alors moi, j'ai beaucoup aimé Jeune Égolerie. Je m'attendais à pas grand-chose parce que j'avoue être souvent déçu par les séries qui mettent en scène le stand-up. Parce que quand je regarde les séries, soit j'aime l'humoriste en question, et dans ce cas-là, je prends plaisir à regarder la série et puis c'est tout, mais parce que je comprends tout l'univers de l'humoriste, soit je passe complètement à côté. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que cette série, elle nous parle du stand-up, mais presque du stand-up pour les nuls, c'est-à-dire que mes parents qui connaissent rien au stand-up vont regarder cette série et vont comprendre ce que c'est que le stand-up et la différence presque entre le stand-up et le one-man show, comment la vie finalement de cette Prune vient intégrer son spectacle. Donc ça, c'est le premier point. Agnès Hurstel, d'ailleurs, et c'est ça qui est malin, quand elle endosse le costume de Prune, elle endosse pas son personnage. Et c'est ça qui je trouve intéressant, parce qu'il y a beaucoup de séries américaines où c'est vraiment les humoristes qui essaient de...
Elle se crée un personnage de fiction.
Et du coup, ça lui permet de jouer avec tous les genres de la comédie à la française. Et c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire à la fois le stand-up pour le côté faux auto-fictionnel, mais aussi le côté un petit peu comédie de boulevard, où en fait, la maîtresse qui est dans le placard et à la porte d'entrée, et la femme du mari, c'est en fait pas une femme, c'est sa fille. Et ça, je trouve que c'est hyper malin, c'est très drôle, c'est touchant, et Alma, le personnage d'Alma est génial, quoi. Voilà.
C'est vrai qu'il y a des quiproquos jusqu'au dernier épisode. Marianne ?
Alors moi, je trouve qu'il y a une vraie bonne nouvelle en cette rentrée, et on le voit beaucoup à OCS.
J'ai peur, pourquoi est-ce que j'ai peur ?
Non, faut pas avoir peur. Moi, je pense qu'on doit tirer notre chapeau à OCS quand même, parce qu'après l'opéra qui est... voilà, un drama à la Urgence, à la Friday Night Lights, comme le disait Benoît.
Oui, alors, ce soir, on parle de Jeanne Higuelry.
Oui, pardon, et maintenant, hein. Donc, il y a une grosse contre-attaque contre le règne qui semblait sans fin, des flics, des avocats et des disparus mystérieux. Bienvenue dans Autre Chose, un territoire inexploré, et franchement, ça fait du bien. Moi, j'achète L'Adolescente, L'Enfant Prodige, Le Père Indigne. Le pitch est à l'image de la série, pote frais et fun. Pop frais et fun aussi, le fait de voir des nouvelles têtes, hein, ça nous change à la télé. Je trouve que le plaisir...
C'est vrai que Jonathan Lambert, on ne le connaissait pas jusque-là. Pardon.
Pourquoi se concentrer sur ce... Voilà, alors qu'il y a voilà, plein de gens que vous n'aviez jamais vus. Vous aviez, soyons positifs, c'est la rentrée. Donc il y a plein d'idées, des persos, des taglines, des trouvailles de réalisation. Ce qui fonctionne le mieux, je trouve, c'est la relation Prune-Alma. J'aime bien l'idée du gap générationnel inversé. Ça, c'était pour les hyper plus.
Ouais, c'est pour ça que j'avais raison d'avoir peur quand même.
Non, allez, c'est tombé, allez. Je vais évoquer maintenant un petit moins. Pour rester dans le champ lexical de la série, j'aurais aimé voir Jeanne Higuelry à donf. C'est-à-dire plus de radicalité, plus de caractérisation et surtout plus d'exploitation du thème de fond, la manière dont l'écriture phagocyte la vie. Enfin, plus d'exploitation au-delà du gag, parce que je trouve qu'on reste souvent au niveau du gag. Et je trouve qu'il y a une filiation évidente avec une série que j'ai adorée, magnifique, d'Amazon, qui s'appelle The Marvelous Mrs. Maisel.
Oui, bien sûr.
La vie de ce personnage de Myriam Maisel se tricotait avec son stand-up. Mais on n'en est resté pas juste au niveau des dialogues, on n'en restait pas au niveau des gags. Il y avait aussi des situations, il y avait un thème qui était très fort. Et là, je trouve qu'il est peut-être un peu sous-exploité. Il y a beaucoup de vannes, mais il y a moins de situations. Mais quand même, j'ai envie d'y croire pour une saison 2.
Oui, pareil, je suis entièrement d'accord avec vous, et sur les réserves et sur les points forts. Ariane,
Moi, je vais être un petit peu celle qui va plomber l'ambiance. J'ai pas
mais
été tellement passionnée par la série. Moi, j'ai l'impression, enfin, Agnès Hurcel, elle est créatrice, co-autrice, actrice principale, elle est humoriste aussi. J'ai l'impression que c'est un peu lourd pour ses petites épaules toutes frêles. Je trouve qu'il y a effectivement une forme de fraîcheur, mais il y a aussi quand même beaucoup de choses qui fonctionnent pas. C'est marrant parce qu'on parle du côté pop, du côté frais. Moi, j'ai trouvé que beaucoup de gags étaient éculés, qu'on les avait vus ailleurs, première chose. Je trouve que la construction des personnages est souvent très rigide. La petite fille dont vous avez parlé, heureusement que la petite comédienne est formidable, parce que son personnage, il est hyper rigide.
Et il évolue tout au long de,
ouais, enfin,
de
bon,
la série.
Comment l'a présenté Xavier, je trouve qu'il a raison d'ailleurs, entre Einstein et je sais plus...
Nelly Olson, une référence.
Voilà, tu vois, c'est un peu limité, je trouve, comme marge. Et puis je trouve, moi ça m'a un petit peu gênée, que le jeu des comédiens que vous avez tous cités, je le trouve quand même inégal, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de flottement dans l'acting, comme on dit aujourd'hui. Et moi c'est marrant parce qu'à plusieurs reprises je me suis dit, en fait on est peut-être aussi un peu dans un faux docu voulu, puisqu'il y a ce jeu un peu flottant, façon The Office, qui reste quand même pour moi la crème de la crème. Et non, pas du tout. On n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que ça joue comme ça, et moi, ça m'a un petit peu gênée. Globalement, je ne vais pas insister non plus lourdement. Hein, je trouve que ce n'est pas super drôle, quoi.
Si. Et moi, je trouve que les seconds rôles sont tous très bien, notamment Baya Kasmi, que je découvre en comédienne. Là, je trouve très drôle, par exemple.
Est-ce qu'à un moment, vous allez vous souvenir que c'est moi qui organise le jeu de cette émission et qu'éventuellement, je vous donne la parole. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Ne soyez pas des spots, Benoît. Jeanne Higuelry sur OCS.
De mon cœur, tu tombes. Dis-moi si tu sais. De tenir à ton ombre, de tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde. Dis-moi si c'est vrai qu'on a cassé le monde, qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style comme Kylian Mbappé, et tu seras libre. Pas de tigre, ni de gens s'aimaient. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges, dis-moi si tu sais. Compter les secondes, sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle, qu'il te faut si sûr. Te faire entendre sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style, comme Kylian Mbappé. Et tu seras libre, si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre, ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles, ils l'ont dit à la télé. Il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil, qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué. Et si ça résonne, et si demain te plaît, faudra que tu pardonnes. On était fatigué.
Par Julien Doré, une chanson extraite de l'album Aimez-e, sorti en 2020, titre que le chanteur à cheveux blonds et gaufrés dédie à un enfant à venir, un hommage sans doute à cette peluche doudou que les enfants de nombreuses générations ont su sauter. Car oui, un kiki, ça se suçote. Et enfin, double effet Kiss Cool, cette double balade de transmission et d'espoir, il en faut, par les temps qui courent, est accompagnée d'un clip dont Julien Doré partage la vedette avec Virginie Efira, que j'aime d'amour. Oui, c'était mon petit côté, je fais une déclaration. Julien Doré sera en concert à l'Accor Hôtel Arena de Paris du 8 au 10 avril 2022.
France Inter. Une heure en série.
L'heure du conseil littéraire, et je vous recommande cette semaine Mon mari de Maude Ventura aux éditions L'Iconoclaste. On en parle un peu partout, et à juste titre, un premier roman qui, comme la série précédente, passe au scalpel les relations de couple. Un roman écrit à une première personne vite inquiétante qui, du lundi au dimanche, raconte dans les moindres détails son adoration pour son mari et la vie parfaite qu'elle mène à ses côtés avec leurs enfants. Sauf que la perfection n'existe pas, nous le savons bien, et très vite, derrière l'affirmation glaçante de ce bonheur conjugal, quelques indices se glissent pour nous alerter qu'en réalité, cet appartement modèle de la famille est en train de sérieusement se fissurer. L'autrice épouse le mental faussement stable de son héroïne qui teste sans cesse l'amour de son époux en laissant des indices de sa détresse ou de sa rage enfouis, mais son cher et tendre ne les voit pas ou feint de les ignorer. Alors cette femme au bord de la crise de nerfs devient de plus en plus anxieuse, irritable et susceptible, avec en ligne de mire une question en forme de suspense domestique. Comment tout cela va-t-il finir? Maude Ventura, qui cite l'amant de Duras et les peintures de Hockney, emprunte à son tour les lignes faussement claires de ses références et les couleurs, trop belles pour être honnête, du peintre anglais, traquant le danger derrière l'aplat de cette prétendue quiétude maritale. C'est brillant, pétrifiant d'humour à froid, et c'est surtout une réussite. Mon mari de Maude Ventura, aux éditions L'Iconoclaste. Deuxième débat de la soirée, L'Absente, une mini-série en 8 épisodes sur France 2 à partir du 20 septembre. L'Absente narre le retour aussi inattendu que suspect de Marina, jeune adolescente qui a disparu 9 ans plus tôt. La mère de Marina est certaine d'avoir retrouvé sa fille et espère enfin reprendre le cours d'une vie brutalement brisée par ce drame. En revanche, le père, qui a refait sa vie et vit désormais loin de sa première épouse et de leurs deux enfants, est convaincu que l'inconnue n'est pas sa fille. Mais si en effet c'est le cas, alors qu'est-il arrivé à la véritable Marina? Et qu'est surtout devenu son kidnappeur et potentiellement son assassin? Autant de questions et de pistes qu'il va tenter de résoudre au risque de se perdre mentalement dans le dédale d'une vérité bien trouble.
C'est pas elle. C'est pas ses mains.
Tu te souviens de ses mains?
Je me souviens de tout.
Léonore, t'avais 4 ans.
Et alors je te dis que c'est pas elle?
Ma chérie.
Qu'est-ce que je fais là? Vous êtes qui?
Marina, c'est moi, c'est maman.
m'appelle pas Marina. Je m'appelle... Je sais pas. Je sais pas comment je m'appelle.
Elle a ce qu'on appelle une amnésie rétrograde. Elle n'a plus aucun souvenir de qui elle est.
Mais ça va revenir, non?
Ça dépend. Ça peut revenir tout seul au bout de quelques jours avec quelque chose de familier comme un objet, un lieu, un choc même. Et puis on a chez qui ça ne revient jamais.
Quand est-ce qu'elle rentrera à la maison?
Maman.
Si les examens sont bons demain.
Loïc, papa, tu vas pas la laisser faire.
L'absente, une série créée par Delinda Jacobs, scénariste créditée entre autres au générique de Une chance de trop, La forêt ou encore Mon chouchou, Meurtre au paradis, bien sûr. On ne rit pas, Carrie. Côté casting, on retrouve Thibaut de Montalembert, Clotilde Courau, Salomé de Vaels, Marie Denarnaud et le toujours formidable et inquiétant Olivier Rabourdin-Marianne.
Écoutez, Lévi. Moi j'ai un problème avec le titre. Je pense que L'absente aurait dû s'appeler Pour l'amour du risque.
Je ne sais pas où vous voulez en venir, mais j'ai très hâte de le découvrir.
Elle fait un truc très rare à la télé, surtout sur le service public en prime time. Elle fait ça.
On ne voit pas.
Alors, là, il faut...
Oui. À la radio, ça s'appelle un incident technique.
D'accord.
Dans une série, une respiration, un supplément d'âme, un générateur d'émotions. Ce travail sur le silence, je trouve qu'il résume assez bien la très belle réalisation de Karim Ouaret. Manifestement, le chant contre chant pendant 8 fois 52 minutes, c'est pas son truc, et c'est tant mieux. Ce qu'il fait artistiquement sur France 2, ça s'appelle du punk. C'est pour rester dans le thème de l'émission.
Ouais.
C'est suffisamment...
C'est pas bien, mais bon, continuez.
Si, c'est ultra punk. Sa réalisation, elle est tellement différente de ce qu'on voit d'habitude que moi, je trouve ça totalement punk. Ça nous change des séries Cluedo qui racontent la vie et l'œuvre du colonel Machin qui a découvert dans la chambre bidule l'arme utilisée par Madame Truc et qui nous explique tout dans les détails sans jamais laisser de place à ça.
À nouveau, l'incident
ouais, technique.
Technique, d'accord. Voilà. Ok. Je pense que là, les auditeurs, ils sont partis ailleurs.
L'absente laisse les comédiens être présents. Et parmi ces comédiens, Thibaut de Montalembert, qui fait un truc incroyable avec un rôle ultra casse-gueule. Parce que c'est pas comme si on n'avait pas déjà vu un père dont la fille a disparu à la télé. Et même quand le colonel Machin tente de venir squatter et plomber les épisodes à coups de vieilles ficelles procédurales, et je le trouve assez bouleversant dans le rôle. Il compose une douleur infinie avec une humanité folle et porte la série jusqu'à la fin. Et ça donne toute sa force à une fin ouverte et très poétique.
Bon, nous discuterons longtemps de la version de format punk. Je ne suis pas totalement convaincu. Benoît.
Moi, je suis d'accord sur effectivement la dimension esthétique de la série qui est une vraie proposition qui fait du bien, effectivement, dans cette case de la série qui nous parle d'une disparition. Le deuxième point, et ça, c'est le scénario, c'est de nous avoir raconter non pas la disparition mais le retour. Et ça, c'est très intéressant. Du coup, ça donne un aspect revenant, pour citer une série d'il y a quelques années, à ce polar qui a une forme traditionnelle. Les comédiens sont tous géniaux. Alors, Thibaut de Montalembert bien évidemment, mais moi je trouve que la jeune comédienne, donc Salomé de Vaels, est extraordinaire. Tout est dans le regard. Et ce que sait très bien faire Karim Ouaret, c'est filmer justement ces regards qui en disent long et éviter les surdialogues. Donc ça, c'est la gueule d'Olivier Rabourdin, extraordinaire. Et du coup, c'est une série d'ambiances qu'il faut voir vraiment jusqu'au bout. Donc, lundi, en plus, c'est face à l'affaire Grégory sur TF1. Moi, je trouve que la vraie proposition originale, quand même, lundi soir sur une chaîne gratuite, c'est celle-ci. Il faut vraiment voir L'absente, c'est passionnant.
La série sur l'affaire du petit Grégory, une affaire française, oui. Donc diffusée sur TF1, nous en parlerons dans 15 jours. Ariane, L'absente, ne faites pas l'incident technique, je vous en prie.
Non,
vraiment pas du tout radiophonique.
Je ne suis pas très douée en mime, en plus, donc je ne saurais pas le faire. Voilà. Alors, moi, je trouve, contrairement à Marianne, qui porte bien son titre, L'absente. Mais pour moi, L'absente, c'est pas tellement la jeune fille, c'est plutôt, je trouve que c'est une série qui n'a pas d'identité propre. La grande absente, c'est ça. Je trouve que c'est une série ambitieuse, réellement. Je la trouve intéressante, mais je la trouve hybride. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment, je trouve qu'elle est un peu écrasée par les références multiples qui jalonnent tout son récit. Alors, la plus évidente que tout le monde a vue, entendue, c'est la fliquette qui est enceinte. Évidemment, tout le monde pense à Fargo, même si en plus, elle est entachée d'un truc supplémentaire, c'est que c'est une grande fervente catholique. Et elle est censée apporter une touche burlesque à une série qui est quand même profondément dramatique et même mélodramatique. Je trouve que ça ne prend pas du tout la greffe. Ça ne marche pas. Moi, personnellement, ça m'a procuré surtout un malaise, notamment vis-à-vis de la comédienne Marie Denarnaud, que j'aime beaucoup par ailleurs. Ça, c'est la première chose. Les deux autres influences qui sont quand même très notables, vous avez tous les deux parlé avec beaucoup de sympathie de la réalisation. Moi, je la trouve un tout petit peu emphatique, c'est-à-dire qu'effectivement ça se passe, la Côte d'Opale ça se passe dans la région de Dunkerque, elle est très télégénique, donc on a énormément de plans crépusculaires, un peu glauques, un peu inquiétants, le vent, la pluie, le froid, la lumière grise des plages du Nord, et à un petit moment donné où moi je trouve qu'il se regarde un peu filmé, et que tout ça fait quand même beaucoup référence aux séries scandinaves notamment, enfin moi j'ai pensé à certaines, et la dernière touche qui moi me paraît évidente, c'est quand même les séries anglaises, parce que ça reste malgré tout un thriller ou une série policière. Ces séries anglaises qui sont extrêmement fortes, non pas en action mais en émotion, c'est ce que tu as dit effectivement Benoît, je suis d'accord. On s'intéresse surtout au conflit personnel des personnages, et moi j'avoue que là aussi j'ai trouvé que c'était un petit peu emphatique. En fin de compte, je suis un peu embarrassée parce que j'aurais aimé cette série. Moi je trouve que c'est quand même assez ambitieux ce qu'il veut faire, et j'ai vu essentiellement des points négatifs tout au long de ce parcours un petit peu compliqué.
Eh bien, faites-vous votre opinion à partir de lundi 21h sur France 2, la série L'Absente.
Je suis la fille du...
désarmé par Lara Cahen, extrait d'une fille, le deuxième album de cette chanteuse, qui revendique son goût pour le romantisme lyrique et la nature apaisante. Une fille du temps mauvais, comme elle le chante, avec une voix qui éclaircirait n'importe quelle selle plombée, une voix douce et désarmante de bienfaisante quiétude.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan. Comment les séries regardent l'actualité ou inversement? C'est le principe de l'effet miroir. Et ce soir, ce sont les primaires écologistes qui vous ont inspiré, Benoît. Dites-nous de ça.
Oui, exactement. Parce que quand on y pense, si dans les séries, les questions environnementales ont souvent ou parfois été abordées, les écologistes dans les séries télé sont, quant à eux, souvent, comment dire, un peu primaires. Oui, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Si le héros proche de la nature a toujours été présent, je pense le bon sens paysan dans des séries françaises ou alors l'amérindien connecté à la nature dans les séries américaines, je trouve au fond qu'il y a assez peu de héros 100% écolo. Alors certes, dans des épisodes spécifiques, on a pu voir ici et là, en France par exemple, l'ex-femme de Papa Poule, c'est parce que c'est les journées du patrimoine, qui milite pour la défense de l'énergie solaire, ou alors MacGyver, c'est encore pour les journées du patrimoine. L'agent Bricolo, qui s'implique par exemple dans un combat contre la construction d'un port de plaisance, c'était en saison 3, qui aurait des conséquences environnementales désastreuses. En fait, outre les récentes séries post-apocalyptiques qui confrontent les personnages au changement climatique, dans des séries plus anciennes, pour être écolo, en fait, il valait mieux être un animal, comme Lassie, chien fidèle de ce bon vieux garde forestier, ou Flipper, le dauphin sympa de la famille Rix. En 1985, Cap Danger, c'est un des derniers avatars du genre, mais un peu plus loin, ici, quasiment plus besoin d'un animal prétexte pour leur venir en aide. Le bon docteur Robert, c'est vétérinaire. Il vit seul avec ses enfants, Jonah et Nicole, qui est interprété par une comédienne bien nommée Océane. Il travaille pour l'aquarium de Vancouver, en Colombie-Britannique. Dans la baie, avec ses préados, il prend la défense des animaux en proie aux pollutions diverses et notamment aux attaques humaines. La série qui est destinée au public jeune et positif, nous sommes quelques années avant Sauver Willy et en pleine bébé phoque mania. Attention, roulement de boîte à rythme. Voir des héros qui luttent contre de méchants braconniers, ça fait plaisir. Tout ça est un peu primaire, mais la série a au moins le mérite de faire passer un message clair avec des héros qui auraient détesté les manifestations des chasseurs à la une de l'actualité aujourd'hui.
Hé, hey, t'as vu là ? Qu'est-ce que c'est ?
Difficile à dire. Un phoque peut-être, ou bien une loutre. On va les voir de plus près.
Oh, pauvre bête.
Oui. Elle est vivante. Va chercher ma trousse, Jonah. Elle a reçu un coup de fusil.
Elle va s'en tirer ?
Et souhaitons-le. Il faut extraire la balle au plus vite, sinon elle ne résistera pas.
Il s'agit d'une loutre de rivière, hein ?
Oui. T'auras 10 sur 10.
Qui a pu lui tirer dessus ?
T'es traqué.
Alors, avec ce genre de série, on est vraiment sous l'influence du commandant Cousteau, qui était alors très en vogue dans les années 80 et 90.
Complètement. Il y a d'ailleurs une série qui s'est carrément inspirée du commandant Cousteau. C'est une série créée par Steven Spielberg, Sequest, Police des mers.
21e siècle, l'espèce humaine a colonisé le seul endroit inexploré de la Terre, les océans. Moi, commandant du Sequest, ainsi que mon équipage, en sommes les gardiens. Notre avenir est lié à la sauvegarde des océans.
Cette série imagine une police sous-marine dirigée par un commandant à mi-chemin entre Cousteau et Nemo. Et à l'écoute du thème du générique, on est presque, je trouve, dans celui de l'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau qui passait le dimanche après-midi. C'est Roy Scheider qui, après avoir tenté de tuer le requin à tout prix dans les Dents de la Mer, qui endosse le costume du personnage principal. Par ailleurs, un dauphin fait son grand retour au casting, il s'appelle Darwin, et il arrive à communiquer avec les hommes. La série part là encore d'un bon sentiment, mais les aventures à bord du sous-marin aux allures de vaisseau spatial tombent un peu à l'eau. Il n'est pas certain que cette série soit d'ailleurs visible à nouveau en 2021, qui plus est au moment où les Américains nous font un sous-marin dans le dos avec les Australiens. Bref, dans une série qui n'est pas encore dans le monde d'après, c'est-à-dire post-climato-apocalyptique, pour être un bon candidat écologiste, il vaut mieux être un animal ou un boy scout, hein, mais pas forcément un chef d'État, ou alors c'est à vos risques et périls, comme dans la récente et très réussie Occupy, où le premier ministre écolo de Norvège se retrouve confronté aux Russes et à l'Union Européenne après avoir décidé de ne plus exploiter le pétrole.
Aujourd'hui, l'énergie fossile n'est plus qu'un souvenir que nous devons oublier. Cela signifie que l'ère pétrolière touche à sa fin.
Votre production de gaz et de pétrole va reprendre sans délai.
Comment l'Union européenne peut-elle faire pression sur la Norvège ?
Un conseil aux candidats aux primaires des écologistes, ne pas trop regarder les séries, ils risquent d'être un peu déprimés.
Merci beaucoup cher Benoît pour cet effet miroir très green cette semaine et très indispensable. Vous êtes bien sur France Inter dans une heure en série avec nous ce soir Ariane Allard, Marianne Lévy qui a pris je ne sais pas quoi avant l'émission et qui est dans un état un tout petit peu aléatoire on va dire, et Benoît Lagane. C'est l'heure de notre troisième débat et là je vais peser mes mots, mesurer mon temps de parole parce que c'est ma chouchoute de cette rentrée. Vous aurez le droit évidemment d'en dire ce que vous en pensez. Nous allons évoquer We Are Lady Parts sur la plateforme Brut X, une série anglaise de 6 épisodes We Are Lady Parts, où l'histoire déjantée de 5 jeunes filles musulmanes que l'on pourrait dire, alors évidemment avec tous les guillemets possibles, représentatives de cette religion. Je m'explique, de la poétesse engagée à celle qui porte une burqa, mais gagne sa vie en vendant de la lingerie très sexy, en passant par la sage étudiante en biologie hyper romantique et qui cherche le grand amour sur les applications autorisées par sa religion, elle forme un panel contemporain. Rebelles ou sages, elles vivent à Londres, revendiquent leur religion, leur place dans la société et ont en point commun de former un groupe de punk féminin, féministe et rageur. Un groupe bigarré, parfois dissonant, mais qui, outre les décibels, fait voler en éclats les clichés, les a priori, malmène à très bon escient le politiquement correct et défie les réacs de tout crin. C'est peu dire que cela fait du bien.
We are Lady Parts. Here's a little something we thought you might like.
That is me, 26, Capricorn, finishing a PhD in microbiology. Then this is Lady Parts, a confused mix of hash anthems and sour girl power.
Our sound is thin, we need something more. We need lead guitars.
We don't need a wanky, self-indulgent guitar soloist cheesing all over our song.
You went to St. Abigail's Primary School. You play guitar on the talent show.
You got expelled for selling school furniture. Verily, tis I.
I'm gonna kill my sister!
It was kind of like therapy, but with a lot of screaming.
Sorry. You got a problem with my lyrics?
You could do less, more.
We Are Lady Parts, une comédie mordante qui secoue les zygomatiques, créée par Nida Manzor, qui a réalisé quelques épisodes du Doctor Who, et qui signe également, et je vous recommande d'aller la chercher sur internet, l'excellente partition de cette série, créée pour Channel 4, et interprétée par 5 actrices enthousiasmantes, on ne les connaît pas, mais on va quand même les citer, Anjana Vassan, Sarah Camilla, Juliette Botamed, Aisha Hart et Faith O'Moll. Alors pour la presse, c'est un carton plein. Télérama parle d'une série feel-good et bourrifante qui bouscule les stéréotypes et Courrier International cite un savoureux mélange britannique de punk, d'islam et d'humour. Ariane, vous qui avez suivi Sid Vicious sur les routes, évidemment, de tout
le monde. Les gélages, presque.
Mais ouais, les clashs, c'est pour vous. Qu'avez-vous pensé de We Are the Lady Parts? Vous avez le choix entre génial ou génial.
C'est absolument génial.
Merci.
Vraiment. C'est-à-dire que c'est, non seulement ça m'a, c'est une série qui m'a enchantée musicalement, je vais en parler un petit peu après, mais en plus ça m'a épatée, quoi. C'est-à-dire que je pense que les trois mots pour la définir, pour moi, c'est diversité, humour et richesse, parce qu'en plus il y a une écriture. Vous avez bien fait de citer la showrunneuse, elle est extraordinaire.
C'est génial.
Les personnages, comme vous les avez décrits, mais c'est extraordinaire cette façon de rentrer dans des personnages qui sont inattendus, qui échappent à tous les stéréotypes et qui en même temps sont parfaitement.
Qui pourtant semblent les convier au début. Sûr. On peut avoir un peu peur, mais il y a une écriture effectivement qui fait voler en éclats tout cela.
Pour faire une espèce de résumé, moi je dirais que c'est une espèce de mix entre l'univers de Virginie Despentes pour l'énergie rock, parce qu'il y a vraiment une vraie énergie. Et aussi l'univers de Jane Austen, et ça je trouve ça vachement intéressant, c'est-à-dire que c'est écrivain anglais, et qui mettait en scène souvent des jeunes filles de la toute petite aristocratie ou des classes supérieures mais un peu délicates, et c'était souvent des jeunes femmes à la fois très naïves et très futées, et qui cherchaient essentiellement un mari et surtout tomber amoureuse, comme vous l'avez dit. Et là, la voix off, parce que ça ressemble aussi un peu à Ally McBeal pour la voix off, pour la façon dont le personnage se présente, c'est une jeune fille très romantique, mais qui en même temps est une espèce de guitare héros improbable. Et je trouve que ce mélange, de toute façon, c'est une série qui jette des ponts entre plein de choses. Entre les années 70 et la scène punk londonienne, aujourd'hui le rock n'existe quasiment plus, on parle que du rap. Et je trouve ça intéressant de retrouver la rage de cette musique-là. Et les chansons sont toutes excellentes, il faut le dire quand même. Je vais vous donner deux titres de chansons parce que moi ça me fait mourir de rire. Il y en a une qui s'appelle « Voldemort vit sous mon voile » et l'autre c'est « Personne d'autre que moi ne commettra un meurtre d'honneur sans ma sœur ». Je précise quand même que c'est un groupe exclusivement féminin quand même. Donc c'est vraiment très girl.
girly, très girl, très girl power. Il y a deux qualités que je trouve très intéressantes. Je vais terminer, ça va très vite. La première, je trouve que les personnages, on ne justifie jamais leur attitude, ni leurs échanges, ni leur quête, ni rien. On les pose comme ça et on les prend telles quelles. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça parle de féminisme, ça parle d'homosexualité, ça parle d'islamophobie, mais jamais, à aucun moment, les personnages ne sont des emblèmes d'une cause. C'est-à-dire que c'est pas une série militante, c'est par le scénario, par les personnages et par l'évolution qu'on comprend qu'il y a des choses quand même qui sont dites sur tous ces sujets très importants aujourd'hui.
Excellent début de débat. Merci Ariane. Marianne Lévy.
Donc, puisque l'adjectif employé est génial, moi je dirais génialissime. Vraiment, c'est
bien,
un énorme,
loin des variations de cet ordre-là,
voilà. Énorme coup de cœur. Début de saison, même de saison passée. Enfin, une comédie de ce niveau-là, de cette générosité, de cette intelligence, franchement.
Folie, enfin, il y a des trucs.
J'en ai rarement vu. Alors, l'affiliation pour moi, elle est un peu différente. Je dirais que c'est Bridget Jones qui a rencontré les Sex Pistols. Il y a un petit côté comme ça.
Je déteste pas non plus.
Et bon, effectivement, je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit et qui est très vrai sur désinguer le politiquement correct, sur voilà, le regard porté sur la diversité. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est le travail de Nida Manzo. Je trouve qu'elle a fait un boulot de haute couture. Elle est vraiment, c'est une funambuliste. Tout était casse-gueule dans cette série. Tout. Et elle s'en tire super bien parce qu'elle a vraiment travaillé. Je pense que c'est vraiment... Et ça se voit pas. C'est magnifique, mais on voit pas les coutures. Mais elle a rien laissé au hasard. Tout est millimétré. Et je trouve que sa réalisation, c'est le sixième membre du groupe. Si on compte cinq. Tout est à sa place pour laisser jaillir l'écriture. Et l'écriture, elle est époustouflante. Et elle ne prend pas de guillemets. Contrairement à l'introduction, elle y va, elle y va, elle y va. Et d'ailleurs, elle le dit, hein, je trouve ça intéressant, je vais la citer. Elle dit « Il est impossible de plaire à tout le monde, alors je me suis lâchée dans l'écriture, j'ai tout fait pour être en accord avec moi-même. Ceux qui me ressemblent s'y sont retrouvés, on doit lui ressembler, c'est une bonne chose. Moi, je suis hyper contente de ressembler un tout petit peu à Nida Manzo. Et tant pis pour ceux qui considèrent qu'il est inapproprié pour une femme de faire de la musique. Je pense plutôt aux jeunes autrices musulmanes que la série a peut-être inspirées. Ben, je pense qu'elle a une dimension universelle et j'espère qu'elle inspirera plein de monde, cette série, parce qu'elle est vraiment magnifique.
Benoît, eh bien, vous avez une lourde responsabilité sur vos épaules. Il s'agit de faire un carton plein, une unanimité. Alors, je vous laisse la parole.
C'est la série la plus inattendue, la plus surprenante et la meilleure de la semaine, c'est évident. Alors, je suis allé voir ce que la définition de punk, selon le Robert, c'est un mouvement de contestation regroupant des jeunes qui affichent des signes provocateurs, coiffures, ornements, par dérision envers l'ordre social. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que du coup, la série joue le fait que dans la société actuelle occidentale, quelqu'un qui porte le voile, c'est quelqu'un qui vient déranger finalement l'ordre social.
Elle ne porte pas toute le voile.
Oui, mais il y a...
Diversité.
Diversité, oui, mais...
Ne pas réduire la femme musulmane au voile.
Il y en a deux des personnages qui sont quand même... Trois des personnages qui le sont quand même clairement... elles le montrent, mais toutes prient, et on les voit toutes prier par exemple. C'est vraiment la série anti-Zemmour, parce que c'est la série qui vient montrer qu'en fait, on peut être britannique, 100% britannique et 100% musulmane, et qu'on peut s'appeler avec des prénoms.
Avec des prénoms musulmans, voilà. Absolument.
Donc effectivement, Nida Manzo écrit merveilleusement bien cette série. Et au fond, c'est une série punk qui met de la musique punk. Mais à la fois, je pense qu'au fond, c'est plus une série folk. Parce que en fait, certes, il y a l'humour, je ne reviendrai pas sur tout ce que vous avez dit. Oui, il y a la rage, l'humour, mais vous l'avez très très bien dit. Mais au fond, moi, ce que j'ai aimé au fur et à mesure des épisodes, c'est qu'il y a de plus ça avance, plus c'est tendre, plus c'est doux. Et au fond, c'est à l'image de l'affiche de Don McLean que l'héroïne principale a dans sa chambre, qui est le chanteur folk par excellence et qui avait rendu hommage au rock dans une chanson American Pie, une chanson fleuve. Donc c'est la folk qui rend hommage au punk. Et c'est ça aussi, cette série, c'est vraiment extraordinaire.
C'est peut dire qu'on vous la recommande, We Are Lady Parts, sur Brut X.
Your plans to make me blue with some other girl you knew.
Through the Grapevine par les Slits, écrite en 1966 par Robert Whitfield et Barrett Strong. Cette chanson mythique fut souvent reprise, en particulier par Marvin Gaye en 1968, qui l'immortalisa de sa belle voix suave et mélancolique. 11 ans plus tard, 79, les punkettes des Slits en firent à leur tour un hymne ravageur et acrimonieux, bousculant sans la dénaturer la ligne mélodique de cette formidable chanson. Et je voudrais remercier Valentine Chedbois et Marie-Annick Rimbaud qui nous ont déniché cette pépite totalement en adéquation avec We Are Lady Parts. C'est l'heure du plateau télé. Que nous recommandez-vous cette semaine ?
France Inter. Une heure en série.
Voilà, jingle, pardon. Plateau télé, je reprends, Ariane Allard. Que nous recommandez-vous cette semaine à la télévision ? Je le sais déjà, et c'est un excellent choix.
Eh bien, je vous recommande la saison 2 de The Morning Show. Je vais revenir très rapidement sur la saison 1 parce que peut-être que certains ne l'ont pas vu encore. C'est une série américaine hein, sur Apple TV+, qui met en lumière et de façon assez acerbe, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, l'univers toxique et sexiste du petit monde de la télé américaine en s'invitant dans les coulisses d'une matinale, celle qui est la plus regardée.
C'est vrai qu'en France, il n'y a pas ça du tout.
Pas du tout. Du tout. Et en plus, bon, alors c'est une série bardée de stars, hein, parce qu'il y a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell et le génial Billy Crudup, que je trouve formidable, dans le rôle d'un directeur de chaîne télé. Donc là, c'est la saison 2. On reprend exactement là où on s'était arrêté, c'est-à-dire après le départ tonitruant du personnage de Jennifer Aniston, qui est donc co-présentatrice historique de ce morning show. Et en gros, toute cette saison 2, ça va tourner autour d'elle, de son retour contestable et contesté, bien sûr. Alors évidemment, si on est un peu allergique au jeu de Jennifer Aniston, ça va être un peu compliqué. Voilà. Mais bon.
Mais qui va bien, la série.
Mais voilà. Voilà. Non, mais ça va très bien avec la série. Alors, c'est pas Friends non plus, hein. C'est pas rigolo, hein. C'est quand même plutôt dramatique, hein. Pourquoi j'aime cette série? Ben, pour deux choses très simples. D'abord, parce que elle intègre à chaque fois, alors la première, c'était MeToo, bien sûr, hein. Et là, elle intègre la Covid, ou le Covid, comme vous voulez. Le racisme aussi inébranlable de la société américaine. Ça, là-dessus, elle est très forte. Et ce qu'on appelle la cancel culture en américain dans le texte. Et ça, je trouve que cette façon, cette réactivité, je la trouve passionnante. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est son engagement décomplexé sur ces trois sujets.
Merci beaucoup Ariane Allard. Morning Show, la saison 2 sur Apple TV. On l'avait défendu ici, effectivement. Très beau service après-vente. Marianne Lévy, vous allez nous parler de How to Make It in America sur OCS.
Oui, alors un petit plateau télé de circonstances. On a encore plein de bonnes volontés, plein de bonnes résolutions. Alors je vous propose un How to Make It à la rentrée. Le mieux, c'est de prendre conseil auprès de spécialistes. Alors, les petits gars de How to Make It in America font très bien l'affaire. Ben et Cam jouent leur futur dans la jungle new-yorkaise, ce qui est à peu près équivalent au niveau difficulté. Il y a un petit côté entourage dans cette série, mais sans le glam et un peu plus marqué ciné indé. Je sais qu'on parle de série, que c'est un crime de lèse majesté.
Non, il n'y a aucun crime de lèse majesté dans aucun sens.
Je demande pardon à la majesté. Donc, on a un peu plus indé dans le propos et l'esthétique. Donc, pourquoi regarder cette petite série HBO qui a été passée un peu inaperçue à sa sortie en 2010 ? Pour céder au charme de la bromance, le duo de potes est très attachant. Pour voyager à New York sans le jet lag. Et pour apprendre à ne pas... Là, j'étais sûre que j'allais me planter, mais je le fais quand même. À ne pas to make it facilement.
Pas mal quand même, How to Make It in America sur OCS. Merci Marianne, il vous reste une minuscule minute, Benoît Lagan, pour nous défendre Nancy Drew, la nouvelle saison sur Salto.
Oui, c'est ça, parce que vous aviez recommandé la première saison quand elle arrivait aux États-Unis en espérant que ça passe. C'est enfin disponible sur Salto. Ceux qui n'ont pas vu la première saison qui arrivait juste avant l'été, allez-y. C'est Nancy Drew, c'est Alice Détective, hein, les romans de la Bibliothèque Absolument. Verte. Voilà. C'est aujourd'hui, c'est créé par les créateurs notamment de Gossip Girl, et c'est le mélange du Club des Cinq nourri au Scooby-Doo gang, hein, à peu près. Et tout commence d'ailleurs dans la saison 1 quand la fiancée du notable du coin est retrouvée assassinée au bord de mer. Et que tout le monde est possiblement coupable, et tous forcément les amis de Nancy, tous plus ou moins prolétaires. Il y a des gros mystères, comme dans Scooby-Doo, et la saison 2 poursuit les mystères. Donc c'est à voir avec vos ados, les week-ends plus vieux. Si vous avez aimé Buffy, vous aimerez peut-être ça, avec vos ados. Voilà.
Je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup Benoît, Nancy Drew. Deux saisons disponibles sur Salto, une heure en série, c'est fini. Mille merci à vous Ariane, Marianne et Benoît d'y avoir participé. Et évidemment, merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé cette semaine Jeanne et Gaulerie sur OCS, L'Absente sur France 2 et surtout We Are Lady Parts sur Brut X. La semaine prochaine, nous évoquerons Shadowplay sur Canal+, Dr Death sur Starzplay et Hopville sur Arte TV. Demain soir, Le Masque et la Plume consacré au cinéma. Ils parleront de Dune et de L'Origine du Monde. Grand écart, donc une heure en série. Une émission à réécouter en podcast. Il y a un site internet, vous pouvez nous envoyer des courriers, retrouver le programme détaillé. Il y a un compte Instagram, une heure en série officielle. L'émission a été réalisée de main de maître, comme toujours, par la très punk Marie-Annick Rimbaud. Programmation musicale assurée par Valentine Chetbois, préparée avec Amel Kadhi, bien punk aussi quand elle s'y met. Et ce soir, à la technique, le plus punk de nous tous, Ludovic Asselot. Pour l'instant, un peu de musique. Je vous invite à 2 heures de musique avec Mathieu Conquet, maître de cérémonie. Mathieu, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bonsoir Xavier. Vous entendrez à la fois l'actualité musicale avec à 22h, ce sera Et je remets le son. Et avant ça, c'est un artiste qui prend les commandes du studio pour vous emmener ce soir dans son grand déviaré, dans ses musiques préférées. Ce sera la Radio 2, Arthur H, dans un instant.
Merci beaucoup Mathieu. À tout de suite.